Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'aumônerie, de l'aumônerie du culte musulman. On devrait dire en principe culte islamique, mais ce sont des subtilités de la langue dans lesquelles nous n'allons pas entrer d'emblée. L'aumônerie du culte musulman avec un aumônier, Christian Jean. Christian Jean, bonjour.
Bonjour Khaled.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes aumônier régional pour le culte islamique. Vous êtes aumônier hospitalier pour la région Pays de la Loire. Et vous êtes surtout chercheur à l'Institut supérieur Montpensier, où vous vous êtes donné à des études autour du remembrement de l'espace méditerranéen.
Tout à fait.
Qui a été disloqué maintes fois et qui est maintenant en quête d'unité pour ce qui est une civilisation euro-méditerranéenne. Christian Jean, en préparant cette émission ensemble, vous m'avez dit le dialogue, le lien entre ce que d'aucuns présentent comme l'islam d'un côté et la République de l'autre, alors qu'il faut préciser davantage ces deux notions, ces deux concepts, ces deux mots, eh bien passe sûrement par l'aumônerie comme une sorte de sortie de crise par le haut, parce que crise, il y en a.
Oui, nous sommes malheureusement en crise et je reprends les termes des économistes dans les années 90-2000. Peut-on parler de crise économique quand la crise dure pendant plusieurs années? Une crise, c'est un élément conjoncturel de courte durée. Nous sommes, nous, dans une situation structurelle qui malheureusement s'éternise. Si je puis me permettre une remarque pour abonder dans le sens de cette analyse, pourquoi l'aumônerie est une sortie par le haut? Premièrement, parce que l'aumônerie est la seule institution religieuse, parce que institution religieuse elle est, reconnue par la République et par la loi de 1905 sur la laïcité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'aumônerie rejoint la République sur ses valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est quelque chose de relatif. L'égalité est souvent remise en cause et on parle plus souvent de désir d'équité. La fraternité, c'est quelque chose de concret et d'humain. C'est pas un concept abstrait. Or, l'aumônerie, c'est la fraternité. Et c'est un élément fondamental aussi de la lecture et de la vision de l'islam. L'islam, et c'est une de mes remarque, en tant qu'ancien catholique, puisque j'ai été catholique pendant 44 ans, la grande différence sur l'enseignement de ces deux religions, c'est que dans l'islam, on met en avant la crainte de Dieu, la crainte du châtiment, et on met souvent en avant cette espèce de peur et pas assez l'amour. Je parle dans l'enseignement traditionnel, je parle pas dans les mouvements soufis, chez les vrais sachants de l'islam.
C'est un peu dans la dévotion populaire.
Tout à fait.
Qui est sur la crainte de Dieu et non pas sur l'amour de Dieu.
Tout à fait. Moi, j'ai une formule auquel je tiens beaucoup, qui s'applique pour moi à toutes les religions, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les hommes.
Parce que l'homme est le vicaire de Dieu sur terre et son icône sur terre.
Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, dans toutes les grandes religions monothéistes. Et dans la religion musulmane, ce qui m'a séduit en premier lieu, ça a été cette fraternité. Cette fraternité qu'il peut y avoir entre les musulmans, qui après ont des histoires de famille comme toutes les grandes familles, mais il y a d'abord cette fraternité, cette proximité qui m'a touché.
Et qui doit être élargie à l'ensemble de l'humain, de l'humanité.
Tout à fait, ça c'est le projet eschatologique. Dans cette fraternité, il y a cette notion d'amour et de partage, de s'occuper de l'autre, et d'accepter aussi son altérité, cette altérité qui est trop souvent oubliée aujourd'hui par un certain nombre de mouvements. Or, la République, c'est cette même fraternité.
Christian Jean, je voulais pas vous interrompre dans votre élan, et vous avez dit que l'aumônerie, et notamment l'aumônerie islamique, ou du culte musulman, est en congruence ou fondamentalement avec les valeurs fondamentales de la République. Et le triptyque républicain, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, vous avez parlé davantage de la fraternité. Mais la liberté, c'est aussi la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de le dire, et ça ne souffre aucun atermoiement, aucune tergiversation. Et l'égalité, c'est aussi l'égalité à la fois ontologique et juridique entre les êtres humains.
Tout à fait. La fraternité, c'est pour moi l'aimant, c'est ce qui va structurer, ce qui va rapprocher. Ensuite, la liberté et l'égalité, c'est ce qui structure. La liberté, c'est le fondement de la foi musulmane. On l'oublie trop souvent, mais l'islam, c'est la relation directe de l'homme à Dieu et le libre arbitre. L'homme est libre de ses agissements et responsable de ses actes. Le mektoub n'existe qu'à travers le kadar. Et ce qui fait le passage...
Le mektoub étant le c'est écrit et le kadar, c'est ce qui est destiné.
Ce qui est destiné, ce qui est prévu pour nous et que nous pouvons changer par notre action et par notre volonté. Et on oublie trop souvent dans l'islam cette capacité de l'homme à changer et à forger son destin dans ce qui lui est prévu par Dieu, mais à prendre des chemins et des destinées qui sont différentes. L'égalité, c'est le principe de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de pape. Dans l'islam, il n'y a pas de chef. L'imam, c'est celui qui est devant. C'est celui qui guide la prière. Ce n'est pas une autorité de conscience, c'est un conseiller. Mais il n'est pas là pour dire, comme on peut le connaître dans notre religion, je vous absous ou je vous excommunie. Ça pose d'ailleurs,
De sérieux problèmes.
De sérieux problèmes et puis de sérieuses questions sur cette mouvance que nous avons depuis 20 ans, que j'appelle la koufarisation, c'est-à-dire la tendance de certains musulmans à traiter de païens et à excommunier de l'islam d'autres musulmans qui ne pensent pas comme eux.
Et qui devraient aussi excommunier, si je puis dire, ceux qui pervertissent ou qui avilissent leur propre enseignement de miséricorde.
Tout à fait, mais on est là dans...
J'entends par là les terroristes ou les djihadistes ou les extrémistes.
Tout à fait, qui sont en contradiction totale avec ces valeurs fondamentales, qui sont les valeurs de l'islam, l'égalité, la liberté, la fraternité. Et ces valeurs-là sont indissociables de la foi.
Christian Jean, par l'égalité, j'entends, et après on reviendra au sujet lui-même, mais c'est ce que vous enseignez aux personnes que vous allez voir, et quand vous êtes un aumônier hospitalier, vous allez rendre visite à des patients, à des malades. Mais par égalité, c'est aussi l'égalité fondamentale entre les êtres humains, par-delà, on dit maintenant, le genre, puisqu'il y a une approche genrée, par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique, par-delà les orientations sexuelles ou autres. Est-ce que cela aussi, vous l'intégrez dans vos échanges avec les personnes que vous voyez?
Oui, en fait, on l'intègre beaucoup dans la relation entre le monde hospitalier et les patients croyants. De nombreuses questions se posent aujourd'hui en matière d'éthique, de dons d'organes, de fin de vie, d'un certain nombre de sujets de funérailles, etc. Et donc, les patients se posent aujourd'hui la question, les patients musulmans, de leur place et de leur relation dans cette société. Et les soignants découvrent que ces patients musulmans ont aussi les mêmes droits que les patients des autres cultes ou ceux qui ne croient pas. Et donc, on essaie d'être ce lien, de permettre aux uns et aux autres de se comprendre. Il y a un poème que j'aime beaucoup qui est « La rose et le réséda ». Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux aimaient la belle étant la République. Et je crois que on est aujourd'hui dans cette configuration où ceux qui croient et ceux qui ne croient pas doivent tous les deux aimer la République et partager la même croyance dans l'homme, à travers Dieu ou sans Dieu en fonction de leurs convictions, mais dans tous les cas vers le même objectif.
Oui. Christian Jean, vous avez commencé un peu à esquisser ce que vous faites comme aumônier hospitalier. On passera en revue les autres formes d'aumônerie, pénitentiaire, militaire et scolaire aussi. Mais étymologiquement, aumônier renvoie à la notion d'aumône. Et on a même parlé de l'aumônier et du chapelain des milieux du XIIe siècle. Que fait l'aumônier d'une manière générale?
Alors, l'aumônier, sa première mission, c'est d'abord une mission d'écoute. C'est d'être à l'écoute des patients, des soignants aussi, qui ont besoin de parler, d'échanger. C'est une mission d'accompagnement sur le rite, c'est-à-dire pouvoir, alors on ne dit pas célébrer une messe chez les musulmans, mais conduire une prière ou mener d'autres actions, des doigts, les ruqyas, etc. Mais c'est aussi accompagner le patient, la personne malade et sa famille dans les actes du quotidien. C'est trouver un appartement, apporter une assistance financière, trouver dans un certain nombre de cas des financements pour les funérailles qui ne sont pas pris en charge, accompagner des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. C'est tout ce qui va permettre d'aider l'autre. Donc cette aumône qui est d'abord une aumône physique et pas forcément numéraire, pour aider le patient et sa famille. Se pose là une autre question dont nous allons reparler, je pense, à plusieurs reprises, qui sont les moyens mis à disposition de cet aumônier, sachant qu'il n'en a aucun. Ça rend encore plus difficile sa mission aujourd'hui. C'est-à-dire que cette aumône aujourd'hui, qui était récoltée par les aumôniers catholiques traditionnellement à travers les paroisses et qui allait irriguer ces mêmes curés qui se retrouvaient aumônier dans les hôpitaux, eh bien cette irrigation ne se fait pas parce que l'islam aujourd'hui est morcelé et que les structures de financement n'existent pas. Et donc l'aumônier est seul avec ses convictions et sa bonne volonté.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons spécialement d'aumônerie d'une manière générale, même si l'aumônier qui est avec nous, Christian Jean, est un aumônier régional pour le culte musulman, aumônier hospitalier pour la région Pays de la Loire, et aussi chercheur à l'Institut supérieur Montpensier pour parler des aspects historiques, culturels et cultuels du pourtour méditerranéen. Christian Jean, vous avez parlé de cette aide, plus souvent une aide immatérielle de présence, aide spirituelle, accompagnement qu'une aide proprement parlée physique et en numéraire. C'est vrai, comment l'aumônerie du culte musulman, on devrait dire encore une fois le culte islamique, est structurée, quels sont ses moyens? Faites-vous vous-même vous donner de votre temps et de votre énergie, mais l'aumônier finalement est rémunéré par qui?
On a quatre types d'aumôniers. Donc on va les reprendre rapidement et donner quelques chiffres. Les Français aiment beaucoup les chiffres. On a des
sont des êtres fragiles et qui disent n'importe quoi sous la torture, dit-on. Donc, n'allons pas les triturer aujourd'hui, mais je vous écoute.
Alors, on a des aumôniers hospitaliers qui sont, d'après, on pourra citer les textes tout à l'heure, soit des aumôniers salariés des hôpitaux, soit des aumôniers auxiliaires et donc bénévoles. On a ensuite les aumôniers des armées, qui sont donc la prise en charge par l'armée, puisque ce sont des militaires. Nous avons les aumôniers des prisons, qui, là aussi, distinction entre les aumôniers salariés statutaires et les auxiliaires. Les statutaires sont normalement prise en charge par
l'administration pénitentiaire.
Et en dernier lieu, les aumôniers scolaires qui doivent eux aussi normalement être régis par les mêmes règles. Mais là, c'est un peu plus flou. Si on prend maintenant les aumôniers de manière globale, on a environ dans le monnerie hospitalière, c'est une extrapolation, à peu près 2000 aumôniers, dont 1200 aumôniers catholiques, parce que c'est la référence, la France étant un pays d'essence catholique. On a 350 aumôniers musulmans. À titre d'information, en Ile-de-France, pour 2 millions de musulmans, nous avons 12 aumôniers salariés dans la région Pays de Loire.
Toutes disciplines confondues, si je puis dire.
Musulmans.
J'entends, mais...
Uniquement pour l'hôpital.
Pour l'aumônerie hospitalière.
Pour l'aumônerie hospitalière dans les Pays de Loire, nous avons 350 aumôniers, 50 qui sont défrayés, et nous avons donc, pour mon cas, donc des aumôniers musulmans, j'ai 35 aumôniers, donc 2 seulement sont défrayés.
Alors, c'est uniquement un défrayement ou il y a une forme de salaire? Et qui, c'est l'administration de la santé?
Alors, normalement, c'est du salaire.
D'accord.
Alors, normalement, c'est du salaire, mais c'est du salaire. On peut prendre les chiffres des autres. Les prisons, c'est 1628 aumôniers, 760 catholiques, 224 musulmans. Et les scolaires, c'est uniquement des catholiques. Aujourd'hui, ils sont 3000.
Et vous n'avez pas parlé des autres cultes, le judaïsme et le protestantisme, par
exemple. On a tous les autres cultes, on a les judaïques...
Et le bouddhisme aussi.
Bouddhiste et orthodoxe.
Et témoins de Jéhovah.
Tout à fait. Donc, tous les cultes ont droit à demander à avoir leur aumônerie. Il faut simplement qu'ils aient une instance représentative reconnue par l'État qui puisse désigner ses aumôniers. La loi prévoit que l'État doit prendre en charge ses aumôniers en fonction, entre guillemets, du travail effectué. À ce jour, si nous prenons l'armée, c'est clair qu'ils sont pris en charge à 100%. Si nous prenons les prisons, il y a eu de mémoire l'équivalent de 60 équivalents de temps plein pour les aumôniers musulmans en 2015, avec Monsieur Cazeneuve, ce qui a fait que l'aumônerie musulmane, en termes de salariat, est passée devant l'aumônerie catholique. Mais aujourd'hui, l'essentiel des aumôniers sont à temps partiel. Et quand je dis temps partiel, c'est un dixième, un vingtième de temps, basé sur une rémunération de catégorie C de la fonction publique échelon 1, c'est-à-dire qu'ils ont péniblement entre 150 et 230 euros par mois en termes de salaire, pour couvrir l'ensemble de leurs frais, de leurs déplacements, mais aussi de leur travail. Donc, on est le plus souvent dans le bénévolat lorsqu'on est salarié, et lorsque les aumôniers sont cette fois-ci non salariés et donc bénévoles, ils n'ont bien entendu aucune rémunération et aucun frais. Et aujourd'hui, aucune structure ne peut assurer la prise en charge des frais des aumôniers, qu'ils soient les aumôniers hospitaliers ou les aumôniers des prisons. Donc on touche là à un problème de fond qui est le financement de l'aumônerie, parce qu'il n'y a pas uniquement les salaires, il y a les déplacements. Moi, je fais à peu près, en 3 mois, 2500 kilomètres. Il y a la prise en charge d'un certain nombre d'actions. Alors, les hôpitaux financent, on va dire, tout ce qui est nécessaire au culte et aux pratiques funéraires, mais dès qu'on sort de ce cadre-là, les aumôniers se retrouvent souvent assez seuls.
Donc, oui. Christian Jean, vous nous avez donné une sorte de cartographie ou un panorama général qui ont des difficultés sérieuses, ces aumôniers, quelle que soit l'aumônerie hospitalière, pénitentiaire, militaire, qui, elle, pose moins de problèmes, au contraire, et aussi scolaire et qui reste flou, il incombe à la fois ou davantage à la structure qui est le CFCM, à l'instance, de régler cela. Mais vous m'avez dit qu'en vertu de la loi de séparation du 9 décembre 1905, où il y a la garantie de la pratique du culte en milieu clos, qui sont les hôpitaux, les prisons, les écoles et l'armée, la caserne. Là aussi, une compréhension souple et intelligente de cette loi autoriserait à dire que l'État pourrait y contribuer.
Alors, pourrait y contribuer, dans certains cas, oblige même l'État à le faire. Hein. C'est dans le cadre des hôpitaux, la circulaire précise bien que les hôpitaux doivent rémunérer, donc salarier, les aumôniers. Alors c'est fait dans un certain nombre de cas, ce n'est pas toujours au regard de ce qu'attendent les aumôniers musulmans. Donc c'est une difficulté qu'il va bien falloir régler, parce que de cette gestion des aumôniers dépend la qualité de la relation entre guillemets avec les personnes malades, privées de liberté principalement, mais dépend aussi la relation fondamentale entre l'islam et la République. Si l'islam veut des interlocuteurs de qualité et un travail de qualité, il faut mettre les moyens derrière ses ambitions.
Christian Jean, prenons deux exemples. Le premier, c'est celui de l'aumônerie hospitalière. Un aumônier, vous-même ou quelqu'un d'autre, un de vos collègues, aumônier hospitalier, est-ce qu'il explique à un patient ou une patiente lorsqu'il ou elle récuse un médecin de l'autre sexe? Or, dans la tradition religieuse islamique et même en civilisation, le médecin est asexué. Avicenne ou Razès, pour ne citer que cela, ou même des médecins non musulmans mais qui vivaient dans l'Empire, des médecins juifs, allaient ausculter des familles, des femmes, des princesses même, ou des femmes ordinaires. Donc pourquoi cette régression de nos jours, et notamment au sein de la République?
Alors, cette régression, elle tient pour moi à la constitution de l'islam en France et dans le monde, mais on va s'intéresser à la France, le monde c'est un peu plus compliqué, il nous faudrait un peu plus de temps. L'islam en France s'est constitué comment? Il s'est constitué par vagues successives. Les premières traces de musulmans, c'est grosso modo le XIIe siècle. On a ensuite la France empire colonial avec l'apogée en 1930 où la France est le premier pays musulman au monde
du
point de vue démographique et du point de vue d'ailleurs des centres de recherche, on l'oublie souvent, et des liens qu'il y a pu y avoir avec un certain nombre d'acteurs connus, Lyoté, Foucault, etc. Et puis on a, avant la décolonisation, dans les années 60, environ entre 100 à 200 000 musulmans en France. Je passe très rapidement sur les deux guerres mondiales et l'effort admirable des musulmans des colonies pour la défense de la République, qui a d'ailleurs donné lieu à la création de la Grande Mosquée de Paris, il faudrait pas l'oublier. On arrive à la décolonisation, et là, le nombre de musulmans bondit des années 1960 aux années 1914. On commence à parler d'environ 1 million de personnes, entre 600 000 et 1 million de personnes. Et 74, le regroupement familial, et là, c'est l'explosion pour arriver aujourd'hui à peu près à entre 5 et 6 millions de musulmans en France. Que s'est-il passé pendant cette période? Nous avons des personnes qui sont venues avec leur religion étant la pratique culturelle de leur religion dans leur pays d'origine.
Et culturelle.
Et cette culture diffère, et cette pratique diffère dans chaque pays. Contrairement à ce que l'on dit, il n'y a qu'un islam de croyance, mais il y a autant de pratiques qu'il y a de pays musulmans, puisque la tradition du khalifa fait que, comme dans la monarchie absolue française, le khalif étant le représentant de Dieu, celui qui critique Dieu critique le khalif, celui qui critique le khalif critique Dieu. Et donc, dans tous les cas, on lui coupe la tête. Moralité, les républiques qui sont nées de cette tradition ont toutes des ministres des oulémas, donc des ministres qui gèrent le culte musulman, et qui donc salarie le plus souvent les imams, gère et finance les mosquées et dicte les règles et les fatwas, les dates des fêtes, etc. Or, cette culture totalement liée de la culture locale à la pratique cultuelle fait que lorsqu'ils sont arrivés en France, ils ont amené leur culture, pensant que leur culture était du culte.
Oui. Christian Jean, ce n'est pas tant l'affaire des parents ou des grands-parents, c'est aussi une crispation dans une forme de revendication politico-identitaire de la jeunesse. Et vous avez parlé du califat, comme vous l'avez présenté, c'est aussi une sorte de dérive de l'histoire, puisque le califat n'a aucune valeur sacrale, n'a aucune mention ni dans le Coran, ni même dans les corpus seconds, dans les aphorismes du prophète, c'est une construction humaine. Christian Jean, aumônier régional pour le culte musulman, aumônier hospitalier pour la région Pays de la Loire et chercheur à l'Institut supérieur Montpensier, pour parler du rôle de l'aumônier comme interface, comme aussi régulateur, comme médiateur entre l'islam d'une manière générale en France et aussi la République. Et c'est ce que vous expliquez, Christian Jean, à la fois à la jeunesse, aux passions, quel que soit leur âge d'ailleurs, et ils vous écoutent, ils vous entendent.
Oui, parfois, pas toujours. La difficulté, c'est de redonner une image de l'islam qui soit une image fondée sur les textes et sur la réalité de la pratique, et non pas sur l'appropriation que les individus sont faits d'une pratique familiale ou, pire, importée avec les mouvements wahhabistes, qui ne repose aujourd'hui sur aucune connaissance. Et on touche en fait à la première difficulté, qui est comment on apprend l'islam. Comment on transmet le savoir. Et là se pose le problème, d'une part, de la pratique de l'islam dans les pays d'origine, où la première chose que l'on fait, c'est faire apprendre au Kotèb le Coran par cœur aux petits-enfants.
Le Kotèb étant l'équivalent de l'école coranique.
Tout à fait. À faire apprendre par cœur, sans réfléchir, et à restituer par cœur, avec des interdits, le Coran. Et puis, ensuite, des mosquées, chez nous, qui ne sont pas, comment dirais-je, encadrées par des imams, qui ont suivi une formation, leur permettant cette imbrication entre la République, la culture, l'identité française et la culture islamique. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que l'on veut, j'ai envie de dire des deux côtés, dissocier l'appartenance culturelle, l'identité religieuse à l'identité française. Et cette dichotomie, cette opposition, elle est très ancienne. Elle remonte pour moi au statut de l'indigène et au premier Saint-Cyrien qui était le commandant Daoud qui a intégré Saint-Cyr et qui a dû renoncer à son statut d'indigène pour intégrer Saint-Cyr, alors que rien ne lui obligeait. Et on a donc sans arrêt cette mission où lorsqu'on parle d'islam, en tant que Français, on me dit d'aller voir le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie.
Et il n'y a alors aucune raison.
Alors que je suis Français. Oui, mais c'est eux qui financent et c'est eux qui fournissent les imams.
Et donc, il faut en finir avec l'islam consulaire.
Il faut en finir avec, d'une part, l'islam consulaire et l'islam indigène. L'islam n'est plus une religion importée d'indigènes de la République au statut différent des citoyens français. L'islam n'est plus une religion importée de travailleurs étrangers ayant une nationalité étrangère et n'étant que de passage. L'islam est aujourd'hui la religion de 6 millions de Français.
En allez. Gros, allez, on dit le dixième de la population, puisqu'on n'a pas des statistiques fiables.
Oui, mais à peu près, et donc 80% ont la nationalité française et sont même de la deuxième, de la troisième, voire de la quatrième génération.
Et il faudrait arrêter l'énumération même de la génération, puisqu'on ne le fait pas pour d'autres catégories ou d'autres composantes de la nation.
Tout à fait, mais ça pose en fait une question de fond, c'est que cette attitude n'est pas un problème en fait pour moi, et c'est ce qu'on a étudié d'ailleurs à l'Institut Montpensier. On a travaillé avec Nasser Gabriel sur ce sujet. La problématique aujourd'hui n'est pas la confrontation entre l'islam et la France. La confrontation aujourd'hui, c'est la dénationalisation. C'est-à-dire que des citoyens français rejettent leur nationalité au nom d'une nationalité étrangère victimaire et, entre guillemets, plus appétissante, ou d'une supranationalité de ce qu'on appelle le super-musulman, et on rentre donc là dans toutes les caricatures et toutes les dérives qui amènent à l'extrémisme et au terrorisme. Donc il faut que la République redonne du sens à l'islam en reconnaissant ses citoyens, et pour ma part, je pense que la laïcité est un instrument formidable. On voit bien que l'argent est une question centrale. Michel Rocard avait dit « qui paie contrôle ». Je crois que si
et
nous...
qui rémunère l'orchestre choisit la musique.
Voilà. Et donc je crois que si on veut avancer, il faut que la République soit capable de financer et de donner les moyens à cette religion de s'émanciper de ses attelles, de s'émanciper de ses ingérences extérieures, de s'émanciper de la dichotomie que l'on veut créer entre l'islam et la République et permettre à cette jeunesse de croire en la République dans leurs croyances musulmanes et pas de rejeter ou d'opposer, comme on le fait d'ailleurs dans les sondages, les deux appartenances. Thank you.
le rôle de l'aumônier, cette fois-ci pénitentiaire ?
L'aumônier pénitentiaire, il a vu son métier évoluer dans le temps. C'est-à-dire que l'aumônerie pénitentiaire commence avec Vincent de Paul en 1660. Elle a différents soubresauts structurés d'ailleurs par les deux Napoléons, Napoléon Ier et Napoléon III. Et puis cette aumônerie pénitentiaire, elle est surtout catholique. On va même à un certain moment remplacer les gardiens de prison par des sœurs. Et l'aumônerie musulmane n'apparaît pas dans ce parcours. Elle commence à apparaître dans les années 80. On compte à peu près une quarantaine d'aumôniers indépendants. Et ce n'est qu'ensuite, avec la création du CFCM, que véritablement l'aumônerie musulmane existe. Elle prend une acuité particulière avec les attentats de 2015, où on s'aperçoit que la première machine à fabriquer des extrémistes, c'est la République, puisque c'est la République qui gère les prisons, et ce ne sont pas des pays tiers. Et donc, pour lutter contre la radicalisation et l'islam extrémiste des prisons, on renforce l'aumônerie par l'embauche d'aumôniers, et notamment dans le Figaro, le jour de la grande manif de 2015, le ministre Cazeneuve avait fait un article en première page dans le Figaro où il disait « Nous avons fait venir, je n'ai plus le nombre d'imams d'Algérie, le pays du juste milieu pour les prisons françaises. » Deux remarques de fond, un ministre de la République qui explique qu'il fait venir des fonctionnaires étrangers pour gérer un problème français, c'est quand même surprenant. Et deuxièmement, un ministre qui nous explique que c'est le juste milieu. Nous aimons tous deux beaucoup l'Algérie. L'Algérie a malheureusement connu, dans les années 90, une décennie noire qui était loin d'être celle du juste milieu. Et aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes jamais à l'abri d'une dérive d'un côté ou d'un autre. Donc, on voit bien qu'on essaie de régler un problème en reproduisant le modèle qui a fait défaut et en mettant dans les prisons des aumôniers musulmans extraordinaires, puisqu'ils ne parlaient pas le français, mais que en un mois, le ministre garantissait qu'ils allaient pouvoir parler le français et parler de théologie en français. C'est juste pour éclairer quelques contradictions, mais le problème du recrutement et de la formation est un problème central. L'aumônerie...
Et cela, ce que on a maintenant, sont-ils plutôt... relativement, en tout cas mieux formé et compétent, où on en est encore loin.
Alors, je ne me permettrai pas de porter de jugement de valeur. Je peux simplement dire qu'aujourd'hui, notamment dans l'aumônerie hospitalière, il existe une fiche de poste, l'équivalent du ROM, qui définit ce qu'est un aumônier hospitalier. Je ne l'ai pas trouvé pour l'aumônerie pénitentiaire. Il n'y a pas de grille d'évaluation de la qualité de l'aumônier. C'est-à-dire que l'aumônier aujourd'hui, n'ayant pas de cursus, il n'y a aucun cursus d'aumônier. Alors, il y a des tentatives qui ont été lancées par Abdel Arq Nabawi à Strasbourg.
Il y a l'ENA, l'École nationale d'aumônerie hospitalière, puisqu'on n'entend pas le H et on pourrait confondre avec l'ENA. Voilà. La fameuse ENA, mais bon.
Il y a aussi
toutes les deux sont à Strasbourg.
Tout à fait. Il y a aussi l'initiative de l'aumônerie militaire qui était censée démarrer cette année. Deux aumôneries au budget à peu près équivalent, 200 000 d'un côté, 250 000 de l'autre, avec une contribution chaque fois, si je ne m'abuse, de la Fédération de l'Islam de France de 20 000 euros pour chacune de ces aumôneries. Mais des initiatives séparées. La première a prévu de former des effectifs, mais pour l'instant ne fait que de la formation continue de quelques jours. La deuxième a prévu de recruter 3 à 4 militaires aumôniers par an. On est loin aujourd'hui du besoin de 3 à 4 000 aumôniers en France. Donc, l'aumônerie pénitentiaire, oui, est sous un contrôle étroit et serré de la direction pénitentiaire et du ministère des Cultes. Le travail est de qualité. Les hommes vieillissent. Ils vont partir à la retraite. Des travaux scientifiques ont montré qu'il y avait un fort turnover et une forte lassitude. Donc après avoir connu une période de croissance, il semblerait que l'aumônerie pénitentiaire tende à s'étioler, faute de moyens et face à l'Everest de difficultés qu'ils doivent franchir avec, moi j'ai un aumônier hospitalier qui est aussi aumônier pénitentiaire, c'est souvent le cas, qui est un homme de grande qualité. Il touchait 150 euros par mois, qui lui ont été supprimés, il ne sait pas pourquoi. Et après, on lui a redonné 100 euros par mois. Bon, il gère une prison avec plusieurs centaines.
Ça reste symbolique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Christian Jean. Nous parlons d'aumônerie d'une manière générale, bien que Christian Jean soit aumônier régional pour le culte musulman, pour l'aumônerie hospitalière. Donc aumônier hospitalier, et cette fois-ci pour la région Pays de la Loire, tout en étant chercheur à l'Institut supérieur Montpensier, pour s'intéresser aux dimensions du bassin méditerranéen, tant au niveau civilisationnel que culturel, politique et même cultuel. Pour cette troisième phase, ensemble, Christian Jean, l'aumônerie militaire, les choses ont l'air d'aller. Plutôt, elles sont structurées. J'ai cru comprendre, et à ce même micro vous a précédé l'aumônier en chef, l'aumônier général, et j'ai compris à ce moment-là qu'il y a 10 fois plus, voire 15 fois plus de choix d'aller défendre la nation que d'aller plutôt procéder à des attentats contre elle, alors qu'on vient d'un même terreau et d'un même milieu, c'est-à-dire dans les mêmes conditions sociales, dans les mêmes situations géographiques, de quartier, comme on dit. Donc il y a ceux qui sont allés en Syrie, il y a ceux qui ont plutôt choisi de défendre la République, dans un lien défense-nation. On aurait 30 000...
C'est à peu près 10% des effectifs dans les françaises, donc entre 30 et 40 000, avec des jeunes passionnants. Alors, je livre une petite histoire personnelle. Il se trouve que j'étais candidat à la réserve opérationnelle de l'armée, et j'ai donc passé ce qu'on appelait avant les 3 jours, dans les 2 jours de sélection à Lyon. Et j'étais à l'époque le plus vieux candidat que recevait le centre de sélection de Lyon. Je me suis retrouvé dans une chambrée avec une dizaine de jeunes qui avaient 20 ans, de toutes origines, tous français bien entendu, et j'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai vu des jeunes passionnés, investis, stressés par les tests physiques qui allaient déterminer leur unité d'affectation, et qui étaient là par conviction. Qui étaient là par conviction, qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient vu de la lumière, parce qu'ils cherchaient un travail, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, qui étaient là parce qu'ils voulaient servir la France et qu'ils étaient fiers d'être français. Et il y avait là-dedans 2 jeunes musulmans qui avaient cette même conviction, cette même passion. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de réconfortant. On oublie que les forces de l'ordre, les victimes des attentats, les militaires musulmans sont les premières victimes de la barbarie terroriste et de la guerre terroriste. Moi, je voudrais...
Ou du moins, des victimes parmi les victimes
tout à fait
nationales, si nous restreignons les choses à la France.
Je voudrais rendre un hommage, si vous me le permettez. C'est dans l'armée qu'est née l'aumônerie, à partir du 8e siècle, grosso modo, on pourra en reparler, si vous le souhaitez. Et l'armée met l'homme face à sa nudité et face à ses croyances et ses peurs, et donc...
Parce qu'il est prêt à tuer et à être tué.
Il a surtout peur de mourir. Et donc, l'aumônerie a toujours été ce lieu de rencontre entre les différents cultes, et je dois dire que ce soit dans l'aumônerie musulmane, que ce soit dans l'aumônerie hospitalière, dans l'aumônerie militaire, dans l'aumônerie pénitentiaire, il y a d'excellentes relations entre les différents cultes. C'est pour ça que je voudrais citer l'histoire du rabbin Bloch. Le rabbin Bloch, le 29 août 1914, au col d'Anozel, sur le front des Vosges, le grand rabbin Abraham Bloch, aumônier israélite et infirmier brancardier volontaire, parce qu'à l'époque, les aumôniers étaient rattachés à des groupes de brancardiers, est tué par un éclat d'obus en portant un crucifix à un soldat catholique mourant qu'il a pris pour un prêtre. Cet acte héroïque et cette mort exemplaire vont faire de lui un symbole de l'union sacrée de tous les Français face à la menace allemande. Alors, j'irai pas plus loin, mais cette image, elle est magnifique et ce geste est magnifique, c'est-à-dire que un aumônier, il est l'aumônier de tous les hommes et il essaie de rapprocher Dieu des hommes, quelle que soit leur manière de croire. Moi, je n'aime pas parler de religion, je préfère parler de manière de croire. Et qu'un rabbin israélite, en plus, grand rabbin, soit mort en donnant une croix à un soldat catholique, c'est la preuve que la République, elle est une et entière, elle est fraternelle, elle est égalitaire et elle est basée sur la liberté des hommes.
Il y a aussi ceux qui n'y croient pas au sein même de la République. Alors comment faire pour que l'ensemble puisse vivre en bonne intelligence? On ne dit plus vivre ensemble parce que le mot est galvaudé et puis on est ensemble et on ne sait pas si on est dans la défiance ou la méfiance alors qu'il faut être plutôt en confiance. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'aumônerie scolaire cette fois-ci.
Oui.
Et vous pensez que les déboires au sein de l'institution, au sein de l'éducation nationale, ce qui est mis en avant par l'inspecteur Aubin
oui,
aurait pu être réglé, on aurait pu pallier ces problèmes par une forme d'aumônerie?
Alors, d'une part, cette aumônerie scolaire est un droit de la loi de 1905. C'est un droit reconnu aussi de la loi de 1880 qui permet aux familles de demander la création d'une aumônerie scolaire. Cette aumônerie, c'est le lien qui manque aujourd'hui pour accompagner ces enfants, ces citoyens naissants qui s'égarent sur les chemins insidieux de l'incertitude et de la fausse croyance vers la réalité de leur religion. Et moi, je ne veux pas parler au passé. Moi, je suis un enthousiaste.
L'enthousiaste, c'est celui qui a Dieu en soi, étymologiquement. Donc,
tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut passer ce message de fraternité et d'union. On peut surtout expliquer. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les jeunes ne parlent pas l'arabe, ne lisent pas l'arabe, ne connaissent pas le Coran, ne connaissent pas l'histoire des pays d'origine de leurs parents et refusent d'apprendre l'histoire de France. Comment dialoguer si on ne remet pas du sens, si on ne remet pas de la culture, si on ne remet pas de l'histoire? Recréons des choses communes et nous aurons peut-être un avenir commun, mais pour ça, il faut pouvoir travailler ensemble le passé, et notamment le passé religieux.
Oui. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et nous parlons de d'aumônerie comme un lien, comme un truchement, comme une médiation entre la frange islamique de la nation et la République, avec l'aumônier régional des Pays de la Loire, aumônier hospitalier Christian Jean, et qui est aussi chercheur à l'Institut supérieur Montpensier. Christian Jean, l'apprentissage de la langue arabe n'est pas que ou exclusivement que pour étudier ou lire le Coran. L'apprentissage, vous ne l'avez pas dit, l'apprentissage de la langue arabe, c'est aussi dans une perspective de civilisation et d'ouverture sur le monde pour quiconque.
Tout à fait.
Pour la minute qui nous reste, Christian Jean, comment voyez-vous la sortie de crise qui a assez duré, d'ailleurs une crise aussi longue n'en est plus une, c'est peut-être un changement de situation pour apaiser les tensions, trouver une intelligence d'une cohésion nationale pour que finalement ce problème soit derrière nous.
Première chose, affirmer et réaffirmer qu'islam et république marchent ensemble et sont en France, pour ceux qui sont croyants, indissociables. Deuxième élément, mettre en place les moyens de l'apprentissage et notamment de l'apprentissage de ceux qui transmettent l'islam à travers une formation professionnalisante des aumôniers, que nous portons aujourd'hui avec le CFCM, Mohamed Azizi et Mohamed Moussaoui, et sur lequel on souhaite agréger toutes les composantes de l'aumônerie. Troisième élément, trouver les moyens du financement. Des solutions existent. Nous avons une proposition en cours. Il faudra que l'État nous donne simplement une caution et nous pourrions arriver à trouver un financement. Je pense que le président de la FIF connaît cette solution. Si nous avons les moyens de changer la manière de fonctionner et de mettre une autonomie, une indépendance, on pourra conduire une dynamique et remettre du positif. Mais il faut qu'on parle d'islam et de république de manière positive et arrêter les images négatives, les querelles, les tweets, les discordes, les petits mots. La République a besoin de sens, la République a besoin de croyance, et l'islam peut apporter à la République la foi de son espérance.
Une croyance dans l'espérance, parce qu'il y a aussi une bonne partie de nos concitoyens qui ne sont pas croyants au sens
66%
cultuel du terme.
66%.
Merci, merci infiniment, Christian Jean. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'aumônerie. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Thibault. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Tan yasinga pa, dan dumatumburu teje jumungunduru te.